Le médiéviste français Pierre Monnet était de passage en Tchéquie à la fin du mois de mai pour proposer une conférence à l'Institut français de Prague autour de la figure de Charles IV, cet empereur du Saint-Empire dont est fêté cette année le 700e anniversaire de la naissance. Radio Prague a profité de cette occasion pour lui poser quelques questions sur la traduction en français de Vita Karoli, l'autobiographie de Charles IV, la première du genre qu'il a réalisée et éditée en 2010 en collaboration avec Jean-Claude Schmitt, entretien réalisé par Pierre Maignan.
Chapitre de l'histoire.
Comment est né ce projet? Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler sur cette autobiographie?
D'abord parce que c'est un texte exceptionnel, d'abord par son contenu et ensuite par son aspect unique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'équivalent à cette époque de roi en Europe qui écrive à la première personne l'histoire de sa vie. Et en commençant surtout par des épisodes qui n'entrent pas habituellement dans l'image de majesté, de prestige royal. Il commence par sa naissance, sa jeunesse. Il ne cache pas un certain nombre de divergences qu'il a pu avoir vis-à-vis de la politique menée par son père, Jean l'Aveugle, notamment en Italie. Et puis, il y a aussi un aspect très personnel que l'on ne retrouve pas dans d'autres textes de cette nature, la description de ses rêves, par exemple, la manière dont il a fait ses apprentissages de jeunesse. Donc c'est un texte très personnel, politique certes, mais qui a une tonalité que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Bon, donc ça, c'est l'aspect exceptionnel du texte. Et puis, évidemment, c'est un texte aussi qui parle pour son époque, c'est-à-dire pour la culture, non seulement de ce roi, mais évidemment de ce qu'était le royaume de Bohême à cette époque, et puis des ambitions de Charles IV. Voilà.
Comment vous avez travaillé à partir des manuscrits qui existent de ce texte et avec les traductions sans doute qui ont été faites dans d'autres langues?
Alors on a travaillé à partir de la version originale qui est en latin naturellement, avec aussi un certain nombre d'autres éditions scientifiques qui avaient été faites du texte d'abord en allemand et ensuite en anglais, et puis on a proposé cette traduction française mais qui reprend quand même un certain nombre de passages latins qu'on interprète un peu différemment peut-être des autres éditeurs. Nous n'avons pas pu, évidemment, travailler, faute de compétences linguistiques, sur une traduction en vieux tchèque qui a été réalisée au XVe siècle de ce texte, mais nous avons utilisé les miniatures qui accompagnent cette traduction au XVe siècle du texte latin, parce que ce sont des miniatures qui sont extrêmement intéressantes du point de vue de la manière dont, au XVe siècle, on commence déjà à bohémiser Charles IV.
Vous avez parlé du caractère exceptionnel de cette autobiographie, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas à la même époque d'autres souverains qui écrivent leur biographie.
Alors, on trouve, disons, des tentations ou des tendances à l'autobiographie, c'est-à-dire à l'écriture par soi, de soi, y compris à la première personne, par exemple du côté de la papauté, est né à Silvio Piccolomini, mais ça nous place déjà au milieu du XVe siècle. Nous avons aussi des tentatives de ce genre au XIVe siècle en Espagne, en Castille, mais jamais de manière aussi aboutie. On aurait pu penser, par exemple, que les rois de France aient pu trouver l'exercice intéressant, c'est-à-dire de renvoyer une image royale à la première personne. Je pense que dès le XIVe siècle, la personne du roi de France a atteint un tel degré de prestige, presque de sainteté, en tout cas de majesté, qui, me semble-t-il, bloque l'individualisation à la première personne. C'est comme si le roi de France ne pouvait être que il, voilà, et pas je, ou difficilement je.
Et chez Charles IV, qu'est-ce qui motive l'écriture de ce texte? Ce sont des visées purement politiques?
Alors, c'est une très bonne question, parce qu'il y a des différences d'interprétation sur, en effet, la visée, la finalité de ce texte. Tout porte à penser qu'il l'a rédigé vers 1350, c'est-à-dire au moment où il est à Prague, affecté d'une maladie qui le cloue au lit pendant quelques mois et qui lui donne sans doute à la fois le temps, le loisir et peut-être une forme de rétrospective ou de rétrospection et donc d'introspection sur lui-même. Ça correspond à une date où il fait venir du Saint-Empire les insignes royaux pour les montrer à Prague. Alors, le texte, comme vous le savez, s'arrête en 1346, c'est-à-dire lors de sa première élection comme roi des Romains. C'est donc un texte qui, je crois, a une visée royale, c'est-à-dire qui montre l'apprentissage et, au fond, comme la prédestination de ce personnage à devenir le vrai roi. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'il devient roi des Romains en 1346, alors là nous ne sommes pas dans la royauté de Bohême, nous sommes dans la royauté des Romains sur le Saint-Empire, c'est une élection qui se trouve faite en concurrence contre Louis IV de Bavière, qui à l'époque est lui le vrai roi et surtout un empereur, même s'il a été excommunié, mais il n'empêche. Bon. Donc nous sommes dans un contexte de combat, de compétition, qui se solde par le fait que Louis IV de Bavière lui-même en 1347 meurt, et donc en 1350 nous sommes là dans une période de stabilisation, d'une sorte de double monarchie, c'est-à-dire royauté de Bohême d'un côté et empire de l'autre. Et d'ailleurs ça n'est pas pour rien que ce texte justement commence par une sorte de prologue qui indique qu'il s'adresse aussi à ses successeurs sur ces deux trônes.
Alors, donc ça, c'est peut-être pour les visées politiques, mais vous avez parlé tout à l'heure de caractéristiques plus étonnantes, peut-être, sur, par exemple, ses rêves. Mmh. Ça nous dit quoi, par exemple, sur la place du « je » au XVe siècle ? On a la capacité à dire « je », une individualisation ?
Oui, alors je préférerais pour le XIVe siècle le terme d'individuation, c'est-à-dire que nous avons, il est vrai, une poussée de la personne, voilà, c'est-à-dire de la description de la destinée personnelle par rapport à une fonction royale qui est évidemment écrasante, c'est-à-dire que devenir roi au Moyen-Âge, c'est évidemment s'habiller de la vêture ou du costume d'une fonction qui évidemment dépasse de loin la personne. Il n'empêche, nous avons des traits d'individualisation de cette personne royale chez Charles IV qui se remarque aussi d'ailleurs par les portraits, peut-être on pourra en reparler, c'est une autre façon de se représenter soi à nul autre pareil. Et je crois que la visée de ce texte et les rêves y appartiennent est de gagner en ressemblance, c'est-à-dire un surcroît de ressemblance par rapport à soi-même, mais évidemment non pas dans quelque chose qui isole l'individu, mais qui le personnalise par rapport à une fonction et aux attentes que l'on projette sur cette fonction, royale notamment.
Est-ce qu'on a une idée de la réception de ce texte chez les contemporains ?
Alors, évidemment, c'est une question fondamentale que l'on peut poser d'ailleurs pour tous les textes médiévaux. Hein. Au fond, pour qui sont-ils écrits ? Alors, nous ne sommes pas dans un contexte d'imprimerie, c'est-à-dire qu'au XIVe siècle, on est dans du manuscrit, donc forcément une diffusion assez limitée, qui plus est le texte est en latin. Donc même si on peut estimer qu'en dehors du clergé, un certain nombre de lettrés, nous sommes aussi au début des universités naturellement, donc quand même quelques couches de la population sont davantage en mesure de comprendre et de lire le latin, mais au-delà de la cour, au-delà des milieux citadins, évidemment, on a peu de chances de toucher un grand public avec ce texte. Je pense qu'il écrivait d'abord pour sa famille, il écrivait pour ses conseillers. Sans doute d'ailleurs a-t-il été repris, hein. C'est un latiniste si vous voulez, mais c'est pas un grand clerc, donc sans doute que sa grammaire a dû être reprise par sa chancellerie ou ses conseillers, et il écrit aussi justement pour le milieu lettré, clérical. Nous savons que nous avons une conjonction très forte à Prague même, qui devient capitale du royaume de Bohême et surtout capitale de l'Empire, une conjonction très forte avec une chancellerie qui manie non seulement le latin, l'allemand, mais aussi le tchèque. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est la manière dont l'écrit, quelle que soit sa langue, devient un moyen de gouvernement.
Vous avez parlé dans ce prologue aussi de cette idée de s'adresser au souverain à venir. Mm-hmm. Quelle est la réception peut-être justement future de ce texte ? Comment elle est réutilisée ensuite ?
Alors, si on prend l'hypothèse d'une écriture plutôt précoce, c'est-à-dire autour de 1350, Charles IV n'a pas encore d'héritier. Hein. Disons, la construction d'une passation des royaumes pour un héritier masculin ne se fait qu'avec Venceslas, qui naît en 1361. Bon, il y a eu un fils avant, mais qui est mort très jeune. Bref, donc nous ne sommes pas encore dans un vrai contexte généalogique, faute d'héritier. Cependant, Charles IV est à Luxembourg et il y a, je crois chez lui, la ferme volonté et conviction de construire un ensemble dynastique qui repose sur une extension du domaine, c'est-à-dire l'articulation entre le royaume de Bohême et le Saint-Empire, avec des gains territoriaux au-delà, c'est-à-dire évidemment de la Moravie, mais déjà un regard tourné vers la Lusace, c'est-à-dire vers la Pologne. Et puis, évidemment, l'ensemble du Saint-Empire, avec aussi une construction autour du Luxembourg. Donc tout ça participe de sa volonté. Et donc, lorsqu'il s'adresse à ses descendants putatifs, il a évidemment en tête, naturellement, de construire une véritable lignée des Luxembourg. Et d'ailleurs, il s'y emploiera de manière tout à fait convaincante et pleine de succès, puisqu'il fut marié 4 fois et qu'il parviendra à marier ses fils et ses filles avec à peu près tout ce que l'Europe du temps compte comme dynastie régnante, sauf du côté de l'Italie et de l'Espagne. Ça, ce sont des bassins généalogiques qui ne l'intéressent pas.